Le Deutéronome, et je crois que le texte va apparaître. Donc le Deutéronome chapitre 31, je commence avec le dernier verset du chapitre 31. Et nous allons lire les 18 premiers versets du chapitre 32. Le passage clé, il se trouve au verset 4 du chapitre 32. Hein, donc, voilà. Alors, je lis ce dernier verset. Si. C'est ça, oui, c'est ça. Donc, 31, verset 30. Il dit, Moïse prononça dans leur entier les paroles de ce cantique en présence de toute l'assemblée d'Israël. Donc 32, et voici ce cantique de Moïse. Cieux, prêtez l'oreille et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe sur comme la rosée, comme les ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Car je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez gloire à notre Dieu. Verset 4, voilà. Il est le rocher, ses œuvres sont faites parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité, il est juste et droit. S'ils se sont corrompus, à lui n'est point la faute. La honte est à ses enfants, race fausse et perverse. Est-ce l'Éternel que vous rendez responsable, peuple insensé et dépourvu de sagesse? N'est-il pas ton père, ton maître? N'est-ce pas lui qui t'a formé et qui t'a affermi? Rappelle à ton souvenir les anciens jours. Passe en revue les années, génération par génération. Interroge ton père et te l'apprendra. Tes vieillards et te le diront. Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël. Car la portion de l'Éternel, c'est ton peuple. Jacob est la part de son héritage. Il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Il l'a entouré, il en a pris soin. Il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes et les prend, les porte sur ses plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple, et il n'y avait avec lui aucun dieu étranger. Il l'a monté sur les hauteurs du pays, et Israël a mangé les fruits des champs, et lui a fait sucer le miel du rocher, l'huile qui sort du rocher le plus dur, la crème des vaches et le lait des brebis, avec la graisse des agneaux, des béliers de Bazan et des boucs avec la fleur du froment, et tu as bu le sang du raisin, le vin. Oh, Israël est devenu gras, et il a regimbé. Il est devenu gras, épais, replet. Il a abandonné Dieu, son Créateur, il a méprisé le rocher de son salut. Ils ont excité sa jalousie par des dieux étrangers, et ils l'ont irrité par des abominations. Ils ont sacrifié à des idoles qui ne sont pas des dieux, à des dieux qu'ils ne connaissent point, nouveaux venus depuis peu, et que vos pères n'avaient pas craint. Tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître, et tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. C'est le verset 4 sur lequel on va s'arrêter, méditer jusqu'à la fin de l'heure, là. Et nous dit, parlant de Dieu, hein, il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle, sans iniquité. Il est droit, juste et droit. Le Dieu fidèle. C'est sûr que lorsque nous pensons à ce mot fidèle, peut-être que ça évoque des choses chez vous. Il y a un proverbe russe qui dit « Humble comme un agneau, diligente comme une abeille, belle comme un oiseau de paradis, fidèle comme une tourterelle. » D'autres dictons font référence à la fidélité du chien. Mais comment regarder à la créature pour se faire une idée sur le créateur? Même si on prend le meilleur symbole de la fidélité parmi et sur Terre, eh bien, sachez que ça ne représente pas la fidélité de Dieu. Et ici, dans ce passage, Moïse compose un poème, et nous l'avons vu dans le verset 30, c'est un cantique que le peuple devait chanter régulièrement pour se souvenir de leur alliance avec Dieu, pour se souvenir de ce qu'ils avaient, ce que Dieu avait fait pour eux, où il les avait trouvés, ce qu'il avait fait et comment eux s'étaient comportés. Ça ressemble un peu beaucoup à cette table que nous avons commémorée aussi, c'est où on s'arrête, on pense à cette alliance nouvelle et on pense à l'endroit où Dieu m'a trouvé et puis le chemin que j'ai fait avec lui. Oh, parfois il était tortueux peut-être, mais c'est le chemin où il ne m'a pas abandonné. Et je le retrouve. Et donc, dans un premier temps, il met cette fidélité en contraste avec leur infidélité. Il dit, moi, je n'ai pas été comme vous. Moi, j'ai été fidèle. Vous avez été infidèles. C'est les derniers versets que nous avons lus. Je ne vais pas trop les développer, mais c'est ces derniers versets. Mais il dira quand même les versets 5 et 6, il dit « Ils se sont corrompus, et à lui n'est point la faute, la honte est à ses enfants, race fausse et perverse. Est-ce l'Éternel que vous rendez responsable, peuple insensé dépourvu de sagesse? N'est-ce pas ton père, ton maître? N'est-ce pas lui qui t'a formé et qui t'a affermi ?» Donc lui est fidèle et l'homme est infidèle. Et un deuxième aspect qui fait ressortir, il rappelle les premières expressions de la fidélité de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Et pense à ce que Dieu a fait pour toi pour te faire une idée de ce qu'est sa fidélité. Et c'est les versets 7 à 9, il nous rappelle que il a dit, mais demande aux vieillards, demande aux anciens, demande de ce que j'ai fait pour vous, qu'ils vous racontent ce que j'ai pu faire pour vous. Parce qu'ici, c'est la deuxième génération, ce n'est pas celle qui est sortie de l'Égypte, c'est celle d'après. Donc il dit, allez voir ceux qui ont vécu en Égypte et qui vous racontent, ceux qui ont vécu Horeb, ceux qui ont vécu Dieu qui parlait depuis le haut du mont Sinaï, et qu'il vous raconte pourquoi vous êtes-vous écartés. Et troisièmement, eh bien après, il souligne ce qu'est vraiment la fidélité de Dieu, et pratiquement ce que cela représente. Et là, il a pris des images pour le faire. Il a dit, je vous ai pris soin de vous comme la prunelle de mon œil, comme l'aigle qui prend soin de ses petits. Il dit, voilà ce que représente la fidélité. Ce n'est pas seulement une vérité, mais on ne sait pas quoi faire avec. C'est comme vous avez été à l'école et vous avez travaillé et vous avez dû, qu'est-ce qu'on vous a fait faire avec pi, 3,14. Ah, il fallait faire des manipulations dans tous les sens. Et depuis que vous avez quitté l'école, vous ne faites plus rien avec. À peine si vous vous souvenez ce que ça représente. Mais quand on dit que Dieu est fidèle, ce n'est pas une chose pareille. C'est quelque chose qu'on vit tous les jours, pratiquement. Et c'est ce qui nous permet de continuer, de persévérer. Dans ce verset 4, Moïse, en parlant de la fidélité de Dieu, il l'associe à justement son intégrité. Il dit « ses œuvres sont parfaites ». Et parce que c'est de la poésie ici, donc il y a deux fois, dans un sens, il dit deux fois la même chose. Et il dit donc « ses œuvres sont parfaites et toutes ses voies sont justes ». Et puis ensuite il dit « il est sans iniquité et il est juste et droit ». Donc il associe à la fidélité de Dieu sa droiture, sa justice, sa pureté. Et puis, d'un autre côté, à cause de la structure poétique de la poésie juive, alors quand il parle du rocher, hein, il est le rocher, et ensuite il est dit, c'est un Dieu fidèle, et bien en train d'associer le rocher et le Dieu fidèle. Et nous allons comparer ces deux-là, parce que, en fait, tel le rocher, et tel un rocher reste toujours rocher. Hein. C'est-à-dire, peu importe les saisons, peu importe les temps, qu'il pleuve ou qu'il fasse soleil, le rocher, c'est le rocher. Hein. De mon bureau, j'ai vu direct sur le rocher de Roquebrune. Mais c'est toujours rocher. Les couleurs changent. Il n'y a que les orages qui arrivent à m'empêcher de le voir. Mais le rocher reste rocher. Il dit, et Dieu est fidèle, et est toujours fidèle, et ça, c'est, il ne peut pas être autrement. J'ai même, pour un peu comprendre tout ce qui est le sens, j'ai regardé plusieurs traductions, et la traduction, la Bible Crampon, et a dit, le rocher, son œuvre est parfaite, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité, il est juste et droit. Il dit « le rocher » et puis ensuite il parle des œuvres du rocher. Hein. C'est personnalisé. Le rocher n'est pas, c'est pas le caillou. Hein. C'est une personne, ce rocher. Dans la traduction Martin, il dit « l'œuvre du rocher est parfaite, car toutes ses voies sont jugement. Le Dieu fort est vérité. » Là, il ne met pas « fidèle », il met « vérité ». Parce qu'il y a cette nuance aussi dans le mot. Et sans iniquité. Il est juste et droit. Dans la Bible annotée de Neuchâtel, il dit « Du rocher, l'œuvre est parfaite, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu de fidélité, sans iniquité, et il est juste et droit. » Chacune de ces traductions essaie de faire ressortir un aspect de la vérité, et chacune, il y a une petite nuance. Parce que le mot fidèle, hein, qu'un Dieu est fidèle, là c'est une description. Tandis que dans le mot, dans le texte hébreu, c'est un nom. C'est un nom. Donc le mot fidèle a été traduit par second, mais on devrait dire Dieu est fidélité. C'est pas seulement qu'il est fidèle, parfois il est fidèle, il peut être fidèle. Non, il est fidélité, il est l'incarnation. C'est-à-dire quand on dit que Dieu est fidèle, c'est comme quand on dit que Dieu est amour. Il n'y a aucun moment où il ne l'est pas. Il est toujours amour. Même quand il est en colère, il est amour. C'est un peu dur pour les papas, hein, parfois, d'être et en colère et amour. Mais Dieu l'est. Et Dieu est toujours fidèle. Et même que lorsque, et l'apôtre Paul le dira, et même si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Il ne peut pas être autrement. Il est fidèle. Et donc, ce mot qu'on trouve ici pour fidèle, en fait, il est traduit par ailleurs, dans la seconde, traduit par fidélité, traduit par vérité, traduit par probité. Et ces notions sont toutes là dans le mot hébreu. Et donc Dieu est toujours fidélité et vérité. Hein, vérité avec le grand V, hein, fidélité avec un F majuscule. comme le rocher, est toujours rocher. Dieu est toujours fidèle. Et donc, nous devons nous souvenir de cela. Et peu importe ce que j'ai pu faire, ça ne change rien. Hein, vous faites ce que vous voulez devant le rocher de Roquebrune, il reste rocher de Roquebrune. Hein. Vous pleurez, vous sautez, vous dansez, vous faites ce que vous voulez, le rocher reste rocher. Et avec Dieu, il est toujours fidèle. Et il ne peut pas être autrement. C'est-à-dire que chaque fois que je vais vers lui, je trouve le même. Son comportement ne change pas par rapport à mon comportement, ce que j'ai pu faire. Ce n'est pas parce que je me suis égaré qu'il est différent. Hein, tout à l'heure, nous avons évoqué Pierre. Pierre qui a, d'abord, il s'est vanté. Hein, l'orgueil était flagrant chez lui. Après, il était un peu trop sûr de lui. Et puis, insensible, alors que Jésus était, et ça se voyait, il était dans l'angoisse. Lui, il est allé dormir. Ensuite, il renie le Seigneur. Et Jésus est le même avec lui. Et quand il le rencontre, eh bien, c'est comme si rien ne s'était passé. Vous savez, s'il a été comme ça avec Pierre, écoutez, je ne crois pas que vous avez fait autant que Pierre encore. Et il a reçu Pierre. Ça me rassure. Il a reçu Saul de Tarse, celui qui avait approuvé le meurtre d'Étienne, et pour lequel Jésus s'était levé. Normalement, Jésus est assis à la droite du Père. Mais quand Étienne a levé les yeux, il a vu Jésus debout. Il n'est pas inconscient de ce qui se passe avec ses enfants sur terre. Et Saul approuvait le meurtre. Mais un jour, Jésus lui parle. Il dit, « Saul, écoute, pourquoi est-ce que tu me persécutes? Qu'est-ce que j'ai fait pour que tu me persécutes? Qui es-tu? Je suis Jésus que tu persécutes. Et tu me parles comme ça? Oui, parce que je ne change pas. » C'est toujours le Jésus qui pouvait recevoir les enfants et dire « Laissez venir à moi les petits-enfants ». Le Jésus qui a reçu la femme qu'on a accusée d'adultère, le Jésus qui a pu s'asseoir avec les gens de mauvaise vie, le Jésus qui a pu s'asseoir chez les publicains, chez Zachée. C'est le même Jésus, toujours le même encore aujourd'hui. Dieu est fidélité. Fidélité avec le sens de vérité, être vrai. Et je vais pas développer l'infidélité du peuple d'Israël, vous pouvez le lire, ça représente tellement grosse partie de l'Ancien Testament. Et c'était certainement intentionné qu'il en parle, non pas pour qu'on pense du mal d'eux, mais pour qu'on soit rassuré, on dit « mais bouh ». J'ai pas encore été comme ils ont été, et pourtant Dieu ne les a jamais abandonnés. Et c'est pour nous rassurer. Parfois, l'Ancien Testament peut paraître lourd et difficile à lire, mais c'est pour me rassurer. Dire, mais je les ai jamais abandonnés, j'étais toujours là. Chaque fois qu'ils se sont tournés vers moi, peu importe les raisons pour lesquelles ils étaient dans l'état où ils étaient, et même si c'était leur faute, parce que même ici, il le dit, c'est pas à lui la faute. Hein. Il dit, j'étais là pour intervenir. Et ce qui m'a toujours étonné dans l'Ancien Testament, c'est la rapidité avec laquelle Dieu est intervenu dans leur situation. C'est pas... Encore moi, hein, même mes enfants que j'aime, parfois je les faisais attendre un peu quand même. Mais Dieu intervient de suite. Parce qu'il est... C'est ça le sens de la fidélité de Dieu. Il n'y a rien, le chien n'a rien de cela. La tourterelle, j'apprécie, j'en ai autour de la maison, mais ça n'a rien de ce que Dieu est. Dieu est unique dans sa fidélité. Et heureusement pour nous. Mais là, Moïse, dans ce chant, il trouve important de faire valoir l'expression de cette fidélité. Et les versets 10 dit « Il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Il l'a entouré, il en a pris soin, il l'a gardé comme la prunelle de son œil. » Pensez à là où le Seigneur vous a vous trouvé, dans quel état vous étiez. Et la plupart des gens qui viennent à lui sont dans des cas désespérés, parce qu'on essaye tout avant de venir à Dieu. Et il dit, souvenez-vous, là je vous ai trouvé dans un endroit, mais aux effroyables cris, aux hurlements, un endroit, dans un état où personne ne désirait être. Et j'ai pris soin, j'ai gardé comme la prunelle de mon œil. Combien de personnes est-ce que vous permettez de toucher la prunelle de votre œil? Et chaque fois qu'il y a quelque chose qui vient vers nous, déjà on commence à cligner les yeux, on commence à fermer les yeux. Hein? On baisse la tête, on fait tout pour protéger l'œil. Il a dit, j'ai pris soin de vous, comme cela, parce que je suis un Dieu. Ma fidélité s'exprime de cette manière-là. Le Dieu fidèle vient nous chercher où que nous soyons pour nous délivrer. C'était au moment où j'ai rencontré Christ, il était là. Mais peu importe, même si je me suis égaré de lui, même si j'ai dit des choses que je ne devrais pas dire et que je regrette maintenant, et si j'ai même... Il dit, je suis pareil, je suis le même. Je suis fidèle, je suis vrai, je ne change pas, je suis ce Dieu-là. Après tout, n'est-ce pas l'Éternel qui a pris l'initiative d'aller vers eux? C'est lui qui est allé les chercher en Égypte. Eux, ils ne pouvaient pas faire autre chose que de se plaindre et de crier, et le cri était monté jusqu'au ciel, mais c'est lui qui est allé les délivrer. Un bras fort. Et pour nous aussi, hein, c'est le Seigneur qui nous a relevés dans l'état où nous étions. Et maintenant, avec le temps, on se rend compte que c'était, en fait, on était en pire état que ce qu'on croyait. Et ensuite, pour encore, il dit, je vais vous aider à comprendre ce que représente ma fidélité, pratiquement parlant, ce que ça veut dire. Au verset 11, il dit, pareil à l'aigle qui s'éveille, qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend et les porte sur ses plumes. Déjà dans Exode 19, Moïse avait déjà évoqué ces choses. Apparemment, je n'arrive pas à trouver un oiseau de nos jours qui fait cela, mais apparemment, l'aigle auquel il fait référence, c'est un aigle qui... Vous savez, quand les oisillons, les aiglons arrivent à l'âge où ils peuvent voler, eh bien, ils ont peur de sauter, mais moi aussi j'aurais peur, hein, vu là où ils sont perchés. Et la maman, ou le papa, je ne sais pas lequel c'est, mais il y en a un qui le bouscule, et puis aïe, 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 et puis pareil, bat les ailes. Et puis, apparemment, les parents, hein, quand ils voyaient que ça n'allait pas trop bien pour le petit, ils arrivaient rapidement, ils passaient en dessous, ils récupéraient le petit sur leur dos, et puis remontaient vers le nid. Ah, oh, on est redoutés. Mais après, ça peut paraître dur. Mais il dit, vous savez, il dit, c'est ça que je vais faire avec vous. Hein. Et puis, finalement, vous savez, les progrès que nous avons pu faire dans notre vie chrétienne, en général, c'est parce qu'on était bousculés, hein. Parce que nous, on est très bien, on aime bien le petit confort. On a trouvé un petit, on a fait notre place, on a fait le petit nid là, et puis voilà, et Seigneur, voilà, je suis très bien, merci, je suis content, alléluia, et tout ça. Puis, il nous bouscule encore avec une situation, une épreuve, quelque chose. Mais il dit, mais je ne vous oublie pas, hein. C'est pas vous, je suis là. Parce que je suis fidèle. Parce que je suis fidèle, je suis là, je contrôle la situation. Il n'y a aucune tentation qui nous est survenue, qui soit humaine, que Dieu ne permet pas qu'il y ait une issue. Hein, Dieu, il sait doser les épreuves. Parce que le but est, et cette semaine je faisais une étude avec, deux, trois fois avec des études sur ce sujet, mais les épreuves, c'est désagréable, mais c'est fait pour nous faire pousser à croître, hein, nous obliger à croître. Il dit, mais ça fait partie de ma fidélité. C'est parce que je m'intéresse à toi. Si je ne m'intéressais pas, je dis, bon, ben, je le plaçais là, il est content là, je le laisse là, il ne bouge pas. Il dit, non, je veux qu'il développe. Non, je veux que mes enfants, hein, quand vous voyez ces temps-ci, vous voyez les mamans, les pauvres, elles se lèvent, elles veulent préparer l'enfant, il faut aller à l'école, il faut revenir pour vous préparer, pour aller le rechercher dans 3 heures. Puis, et elles courent. Et tout ça pour faire quoi? C'est pas parce qu'elle s'ennuie, c'est parce qu'elle aime ses enfants. Eh bien, Dieu dit, moi, c'est encore plus que cela. Le verset 12, il dit, l'Éternel seul a conduit son peuple, il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Il a dit, il le fait tout seul. Il n'a pas besoin de l'aide des hommes, il n'a pas besoin de l'aide de quelqu'un, vous n'avez pas besoin de, ni d'un monsieur pasteur, ni d'un monsieur quelqu'un d'autre. Il dit, c'est moi, je suis fidèle, je suis là, tu peux compter sur moi. Et très souvent, les autres sur lesquels on s'appuie, ils ne sont pas toujours là quand on a besoin d'eux. Hein, comme par hasard. Mais il a dit, moi, je suis un Dieu fidèle, je suis là. Quand les autres ne sont pas là, moi je suis là. Verset 13, il dit, il l'a fait monter sur les hauteurs du pays, et Israël a mangé du fruit des champs, il lui a fait sucer le miel du rocher, l'huile qui sort du rocher le plus dur, la crème des vaches et le lait des brebis. Avec la graisse des agneaux, des béliers, de basan et des boucs, avec la fleur du froment. Et il a bu le sang du raisin, le vin. Dieu, parce qu'il est fidèle, pourvoit à tous nos besoins. Et il pourvoit avec abondance. Oh, il dira après, hein, je l'ai lu tout à l'heure, mais il dira, oui, mais tellement ils sont devenus gras, hein, tellement j'ai bien pourvu qu'ils sont devenus gras. Et replés, épais et replés. Deux, ils sont devenus gras, épais et replés. Ça alors, il dit peut-être tellement je suis bon, tellement je suis fidèle, tellement je pourvois. Et vous savez, parfois on se tasse dans notre vie chrétienne. Le Dieu fidèle pourvoit à nos besoins. Pour Israël, la provision était toujours terrestre. Pour l'Église, elle est céleste. Hein? On ne peut pas, en tant que chrétien, on ne peut pas prendre toutes les promesses de l'Ancien Testament d'une abondance et de ceci, cela, hein, parce qu'après, c'est un autre évangile, l'évangile de prospérité, et ce n'est pas l'évangile qu'a prêché Paul. Hein, le Seigneur prend soin de nous. Il a dit, tu demandes le pain quotidien. Ça, je te garantis, le pain quotidien. Après, s'il met du beurre dessus, ça, ben c'est une grâce supplémentaire. Et en Philippiens, il leur dit, ne vous inquiétez de rien. Il dit, Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse. Et Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse. Il prend soin, parce qu'il est fidèle. Nous, parfois, quand tout va bien, on oublie, et après, quand ça commence à aller mal, après, on pense à lui. La première fois, je comprends qu'il nous pardonne, la deuxième fois, peut-être, mais nous, on ne pardonne pas une personne 3 fois. Hein. Mais lui, Il est fidèle. Il ne peut pas être autrement. Le rocher est toujours un rocher. Dieu fidèle est toujours un Dieu de fidélité. Et si l'ennemi vient vous chuchoter à l'oreille, vous faire douter de cela, eh bien, ne l'écoutez pas. Répondez-lui comme Jésus a répondu à Satan en citant des versets bibliques. Et quand il voit qu'on s'appuie sur les versets bibliques, alors il part, il attend une autre occasion. Ici, ce mot « Dieu » et « fidélité », c'est la première fois qu'on le trouve dans la Bible. Vous regardez dans votre concordance, vous avez trouvé le mot « fidèle » dans Exode chapitre 7, Deutéronome chapitre 7, mais là, ce n'est pas le même mot. C'est un autre mot. C'est le mot « aman », qui veut dire plutôt, qui est traduit par « croire, confiance, éprouver », dans ce sens de « fidèle ». Mais celui-ci, c'est la première fois qu'il apparaît. C'est la première révélation de cet aspect de Dieu. Et c'est dans la fin du livre de Deutéronome. Dites, pourquoi ? Pourquoi il a attendu si longtemps pour le dire ? Bien, vous savez, la Genèse, c'est le livre des commencements. C'est là où tout commence, c'est le premier crime, et puis il y a aussi le premier homme et le premier beaucoup de choses. C'est le livre des commencements. Et quelque part dans votre vie chrétienne, vous avez eu un commencement aussi. Il y a un livre du commencement, là, les premières expériences. Après, vous avez le livre de l'Exode, c'est le livre de la rédemption. C'est le livre qui nous dit que Dieu est allé les chercher en Égypte. Et grâce au sang qui était là, l'ange est passé par-dessus. Et ils ont été rachetés. Il dit, je vous ai rachetés. Vous étiez donnés, vous étiez partis, mais moi je vous ai rachetés. Vous avez quitté Canaan et vous êtes devenus le bien d'un autre peuple. Mais moi, je suis venu, je vous ai arraché de ce pour vous ramener dans le pays que j'ai promis à Abraham, votre père. C'est le livre de la rédemption. Ensuite, vous avez le livre du Lévitique. Le Lévitique, eh bien, c'est la prêtrise. C'est là où il décrit les fonctions du prêtre et tous les sacrifices. Et vous pouvez lire ça et vous dites, oh là, c'est toujours la même chose. Et oui. Vous savez, si vous croyez que c'est toujours la même chose là, imaginez ce que Dieu, quand il pense à nous, il dit, c'est toujours la même chose. C'est toujours les mêmes péchés, c'est toujours les mêmes fautes. Lui devrait se lasser avec nous, pas nous avec ce que lui a pourvu. Mais là, le livre du Lévitique, eh bien, c'est le livre de la réconciliation. C'est le livre qui nous apprend comment, lorsque nous avons péché, comment revenir, rétablir la communion. Vous me suivez, pensez à votre vie personnelle, votre expérience personnelle avec le Seigneur. Dites oui, c'est comme ça que ça se passe. C'est vrai. Et ça se passe dans cet ordre aussi, n'est-ce pas ? Et après, il y a le livre de Nombres. Le livre de Nombres, eh bien, c'est le livre où le peuple était arrivé jusqu'aux frontières de Canaan, et puis Dieu a dit, bon, maintenant, on va y aller. Et ils ont dit, non, on a peur, on n'y va pas, on va avoir peur. Et c'est le livre où il y a les 40 ans de pérégrination. Voilà. On tourne en rond. On dit, ça me dit quelque chose, ça aussi. Je me souviens d'une période de ma vie où ça tournait en rond. On n'est nulle part. Et puis en plus, on mettait la faute sur Dieu. Et puis on dit, Dieu, où es-tu ? Et il dit, mais si c'est à cause de votre manque de foi. Il dit, il y avait une alliance à Horeb, mais vous n'avez pas été fidèle à cette alliance. Et alors, quand on arrive au livre du Deutéronome, c'est là où l'opportunité est présentée à nouveau. C'est le livre du recommencement. Parce que là, Moïse, Bon, c'est la génération suivante, mais là, Moïse rappelle toute la loi, tous les aspects de l'alliance. Il dit, voilà tout ce à quoi Dieu s'était engagé. Et il dit, maintenant, on va aller de l'avant. Et vous savez, peut-être dans votre vie chrétienne aussi, dit, ah oui, merci de ce qu'il y a. Mais vous savez ce qu'il est en train de nous dire? Dire, c'est parce que Dieu est fidèle. Dieu était fidèle, il t'a trouvé là où tu as péché, tu es tombé dans le péché. Il est fidèle, il t'a trouvé quand tu t'es vendu à autre chose et il t'a racheté. Il est fidèle dans le sens que c'est lui qui met en place un moyen pour se réconcilier à lui, pour obtenir le pardon. Il est fidèle dans le sens que même quand tu es égaré, tu es abandonné, et à cause de ton manque de foi, et tu ne crois pas aux promesses de Dieu, et tu tournes en rond, et en plus tu l'accuses de t'abandonner, il est fidèle, il est encore là. Et puis il est le Dieu fidèle qui, eh bien, il te dit, écoute, tu veux pas, on va repartir. On va vivre pour le Seigneur maintenant. Tu veux pas le faire? Et il dit, tu sais, Dieu est fidèle. Tu peux, hein, mais ça, peut-être ça te fait peur, mais tu dis la vie chrétienne, mais comment et tout ça. Il dit, Dieu est fidèle. N'oublie pas, Dieu est fidèle. C'est pas une question de ce que toi tu peux faire et c'est une question de qui il est, lui. Dieu est fidélité. Il est vérité. Il ne change pas, il est comme le rocher. Et ses œuvres sont pures, parfaites, justes, tu n'as rien à craindre. Et donc après le Deutéronome, eh bien c'est possible d'avoir Joshua. C'est le même nom que Jésus. Celui qui dit, écoute, moi je t'emmène prendre possession de tout ce que le Dieu fidèle a pourvu. Le Canaan ne représente pas le paradis. Canaan représente la vie chrétienne. Parce que dans Canaan, il y avait des combats, il y avait des luttes, il y avait des abandons et des réconciliations. Ce n'était pas le paradis, c'est la vie chrétienne. Mais le Seigneur est là, et il a conduit. On prend possession du pays. Là où tout le terrain que tu fouleras sera à toi. Prends possession. Et dans notre vie chrétienne, le Seigneur dit, écoute, j'ai préparé plein de choses. Le Nouveau Testament est rempli de choses qu'il a préparées pour nous. Il dit, prends possession. Au nom de Jésus, grâce à l'Esprit de Dieu, saisis les promesses du Seigneur. Dieu est fidèle. Tu peux le faire. Compte sur lui. Vis pour lui. Et vis cette vie dans la terre qu'il t'a promise. Et cela en attendant que le Seigneur vienne un jour nous prendre, afin que nous soyons tous avec lui. Il dit, je ne vous laisse pas orphelin, je vous envoie le Saint-Esprit déjà pour vous accompagner. Hein? Et puis deuxièmement, il dit, je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous soyez aussi. Il a dit, moi je veux que vous soyez là. Et je suis le Dieu fidélité. Je viens. Et donc, nous voulons venir au Seigneur et nous voulons lui faire confiance pour cela. Comptons sur le Dieu qui est fidélité, vérité, juste. Et il prend soin de nous. Je voulais lire les paroles d'un cantique qui doit représenter un peu notre attitude. C'est « Éternel, ta fidélité ». Il dit « Éternel, ta fidélité va jusqu'aux cieux et ta bonté dépasse toute cime ». Ta justice est pareille au mont et tes jugements sont profonds. Comme le grand abîme, à tous les êtres tu fais voir, et ta clémence est ton pouvoir. La moindre créature, aussi bien que le genre humain, vit sous tes yeux et de ta main, il reçoit sa nourriture. Ô Seigneur, qu'ils sont précieux, les biens que tu répands des cieux, sur les âmes fidèles. Les fils de l'homme et leurs effrois ont un refuge auprès de toi. À l'ombre de tes ailes, ils trouvent en toute saison leur nourriture en ta maison. Ta grâce les abreuve et dans leur cœur, de jour en jour, les délices de ton amour s'épanchent comme un fleuve. Dieu est fidèle, il est le même. Ce qu'il a été pour les uns, il peut l'être pour nous. Hein? Faisons-lui confiance. En ces temps où on ne sait pas trop qui croire, et on ne sait pas trop d'où vient la menace, et on vit dans une nouvelle peur, et sans savoir de quel côté courir. Mais Dieu est fidèle. Nous n'avons rien à craindre. Prions. Père Céleste, nous te remercions de ce que tu te sois révélé à nous. Nous sommes dans cette série d'études où nous voulons savoir qui est Dieu selon lui-même. Et toi, tu nous dis, écoutez, vous voulez me connaître, je suis le Dieu qui est fidèle, comme un rocher. Ne change pas. Et Père, c'est un rocher, c'est un endroit stable. Même Jésus parlait de construire sa maison sur le roc, afin de pouvoir résister aux tempêtes. Père, c'est là où nous voulons être. C'est nous attacher à celui qui est le Dieu fidèle, qui est fidélité toujours le même. Et que quoi que nous soyons, quoi que nous fassions, peu importe là où nous nous égarons, eh bien tu viendras nous prendre parce que tu es Dieu fidèle. Ce n'est pas parce que tu approuves, mais c'est parce que tu es fidélité et tu ne peux pas faire autrement. Et Jésus-Christ a tout payé sur la croix pour que tu nous puisses nous pardonner autant de fois que nécessaire. Mais Seigneur, nous ne voulons pas être comme les enfants d'Israël qui t'ont éprouvé, mais nous voulons être des enfants obéissants, qui soient là au Deutéronome, prêts à prendre possession de tout ce que tu as promis. Père, conduis-nous et honore ton nom au milieu de nous. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen.